Bonsoir. Débat général hier à l'Assemblée nationale après la présentation par le Premier ministre du projet de budget 2014. Selon Matata Ponyo, ce budget estimé à près de 8 milliards de dollars américains accuse un taux d'accroissement de près de 5% par rapport au budget 2013. Certains députés estiment que ce taux d'accroissement n'a aucune incidence sur le vécu quotidien de la population. Quelle analyse faire de ces projets de budget 2014? Nous en parlons avec Francis Kalombo, il est député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Bonsoir, honorable Francis Kalombo.
Bonsoir.
Jean-Marie Bamporiki, le député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Bonsoir, honorable Jean-Marie Bamporiki.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, il est journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Guy Maté.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle des gens Basilere de Bukavu au sud Kivu. Je crois que ce budget en cours de discussion à l'Assemblée nationale doit beaucoup plus servir la nation congolaise au lieu d'enrichir les comptes de nos députés et ministres. Bienvenue à tous dans ce débat.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Premier ministre a présenté officiellement hier le projet de loi des finances 2014 à l'Assemblée nationale. Ce budget s'élève à près de 7 612 milliards de francs congolais, soit près de 8 milliards de dollars américains. Il connaît un taux d'accroissement de près de 5% par rapport à celui de l'année passée. Un débat général a suivi la présentation de ce budget. Certains députés le jugent réaliste, vu le niveau de production du pays. Par contre, d'autres disent que ce taux d'accroissement n'a aucune incidence sur le vécu quotidien de la population. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
Ce projet de budget sur le plan économique, a admis le Premier ministre Matata Ponyo, reste confronté au défi urgent de vaincre la modicité des disponibilités budgétaires et d'intensifier les efforts de mobilisation des ressources en vue de réaliser la vision de l'émergence du Congo. De ce fait, le député national Bombelo Sanda Patrick pense que ce budget est réaliste.
Le budget est plus réaliste. Nous passons que dire que nous devons avoir un budget de 20 milliards pendant que la production ne suit pas. C'est vraiment une utopie.
Mais pour d'autres, le budget 2014 devrait être réqualifié. Quant au taux de croissance dit élevé, ils pensent que son incidence n'est pas perceptible. C'est le cas de Henri Thomas Lokondo.
S'il y a un taux d'accroissement, mais ce taux ne se réalise pas, c'est un taux d'accroissement non inclusif dans le bien-être de la population. Le président de la République l'a dit plusieurs fois et nous également. Ce taux-là, il est encore illusoire.
Notons qu'à l'issue de ce débat général, le Premier ministre a 48 heures pour répondre à toutes les préoccupations des députés nationaux.
Merci Jacques-Yves Molima. Francis Kalombo, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle, le cadre du parti politique PPRD. Un budget dont le montant est estimé à environ 8 milliards de dollars américains. Quelle analyse vous faites de ce projet de budget 2014?
Écoutez, 8 milliards, c'est ce que le Congo peut produire, c'est ça. Les gens doivent comprendre une chose, le budget, c'est ce que nous sommes capables de produire en termes de recettes. Et nous devons dépenser cet argent-là. D'ailleurs, on n'est pas capable de produire 8 milliards puisqu'il y a une bonne partie qui doit venir des fonds. Je pense que personnellement, c'est insuffisant par rapport aux besoins de la République démocratique du Congo. Mais c'est ce que nous sommes capables de produire. Est-ce que la République, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo est capable de produire plus? La réponse est oui. Il y a beaucoup de coulage et vous n'avez qu'à voir lorsque le gouvernement à organiser ce forum de poulage en République démocratique du Congo, vous avez vous-même vu. On peut vous citer beaucoup d'argent qui rentre dans les poches des individus et dont nous devons faire un effort. Il y a trop d'informels en République démocratique du Congo et du jour où petit à petit nous allons canaliser tout ça, on est capable d'avoir un budget de 20, de 30, de 40 milliards.
Ce budget connaît un taux d'accroissement de près de 5% par rapport à celui de l'année passée, ce qui est une évolution positive. Et qu'est-ce qui est à la base de cette évolution, à votre avis?
Je pense que c'est cette capacité de mobilisation. Mais est-ce que la question, ce n'est pas assez? Moi, je pense que ce n'est pas assez. Nous pouvons faire mieux, mais actuellement, avec les instruments que l'État a, l'État n'est capable que de ça. Et nous pensons qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. L'État, le Congolais paye beaucoup, mais je pense que beaucoup d'argent que le Congo... Vous n'avez qu'à voir, il y a des parkings, il y a beaucoup de choses. En République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'informels. Et je vous ai donné, je peux vous donner un exemple, il y a le 5 dollars que payent tous les étudiants en République démocratique du Congo, qu'on appelle fonds de promotion, je ne sais pas, mais où va cet argent? Et tout ça ne passe pas. Il faut que cet argent passe d'abord par la caisse de l'État plutôt qu'on le passe de la main des individus. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de coulages. Le gouvernement l'a trouvé. Et moi, je pense personnellement que le budget actuel, effectivement, n'est pas suffisant. Et vous n'avez qu'à voir l'exemple du Katanga qui a mobilisé, qui est en augmentation en termes de mobilisation. Et nous pouvons faire dans tous les provinces. Et si on ferme beaucoup des robinets, je pense que la République démocratique du Congo pourra avoir un budget pour permettre à ce que la population puisse bien vivre.
Oui, honorable, vous avez évoqué la capacité de mobilisation des recettes qui est, il faut le reconnaître, très faible. Et pourquoi, à votre avis, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à mobiliser de façon maximale, n'est-ce pas, les recettes de la RDC quand on sait que au mois de mars dernier, il y a eu des ateliers qui ont été organisés ici sur le coulage des recettes publiques, et après ces ateliers, parce qu'il y a eu des recommandations qui ont été formulées, mais après ces ateliers, apparemment, rien n'a changé. Hein. C'est comme si on n'a pas su déverrouiller le système.
Mais justement, nous venons de très loin. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas. On vient de très loin. Il y a le budget qui n'existait pas. Et petit à petit, nous sommes en train de progresser. Il faut qu'on progresse encore plus. Et je pense qu'avec ce forum de coulage, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on applique les résolutions dont le membre du gouvernement a essayé d'adopter. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est ça. Il faut qu'on mobilise, mais il faut demander à la population dans leur ensemble d'être vigilante. En République démocratique du Congo, il y a une sorte de léthargie de la part aussi de la population qui ne dénonce pas trop et qui laisse faire beaucoup de choses. Mais il faut que le gouvernement, ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo, essayent aussi de suivre, puisque la plupart des cas, il y a des complicités aussi. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre de comportement. Nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup d'argent en République démocratique du Congo, mais nous n'arrivons pas à mobiliser. Il faut que les Congolais se mettent au travail pour que nous puissions mobiliser plus, pour que nous puissions développer notre pays, pour que nous puissions gagner plus aussi.
Oui, les recettes internes de ces projets de budget 2014 sont estimées à 4 818,8 milliards de francs congolais, soit 63,3%, et les recettes externes à 1 968,6 milliards de francs congolais, soit 25,9%. On remarque que comparativement au budget précédent, il y a des efforts qui ont été fournis pour réduire davantage les apports extérieurs. Et dans ces pays, est-il possible d'avoir un budget qui est uniquement financé par les recettes internes?
C'est le rôle même d'un pays, donc nous sommes capables, et je pense que le gouvernement a fait considérablement d'efforts pour qu'on en arrive là. Et c'est ce qui est en train de se faire, mais ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons atteindre ces objectifs. Il ne faut pas oublier que mobiliser des fonds, il faut aller les rechercher, il faut mettre en place des structures justement pour récupérer ces fonds petit à petit. Donc nous sommes en train d'avancer, on vient de très loin, et je pense que nous pouvons continuer à espérer que les hommes et les femmes qui dirigent la République démocratique du Congo penseront à ça, et ils ont besoin de tout le monde. Chacun peut apporter ce qu'il a besoin d'apporter de manière à ce que nous puissions mobiliser suffisamment. Nous devons fonctionner avec nos fonds propres, mais ce n'est pas un péché. Vous savez, aujourd'hui, le déficit des États-Unis d'Amérique est soutenu par la Chine. La France, n'en parlons pas. La plupart des pays vivent avec des déficits, c'est-à-dire avec des dettes dans leur budget. Et il ne faudrait pas que nous, qui faisons un budget où nous voulons vivre avec le fonds propre, le cash, qu'on puisse nous jeter dans la tête en pensant qu'on ne fait rien. Non, nous faisons déjà un effort de pouvoir vivre sans dette et de pouvoir vivre avec ce que nous avons, ce que nous sommes capables de produire. Et l'extérieur, s'il nous soutient, c'est bon. Mais au cas où l'extérieur ne peut pas nous soutenir, nous devons ne pas penser trop compter avec l'apport extérieur. Nous devons compter avec soi-même. Et c'est déjà mieux qu'au départ, il y a quelques années, où l'apport extérieur était supérieur à ce que nous étions capables, nous, de produire en tant que peuple. Et aujourd'hui, nous sommes au-dessus, nous produisons plus que ce que l'extérieur peut nous apporter. Donc nous pouvons faire mieux de ne rien attendre de l'extérieur et faire avec nous sommes capables de faire en République démocratique du Congo. L'extérieur ne vient que parce que nous sommes en difficulté, sinon on peut faire avec ce que nous pouvons gagner.
Honorable Jean-Marie Bamporiki, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Votre analyse par rapport à ces projets de budget 2014.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est bien que vous rappeliez qu'il ne s'agit que d'un projet, parce que j'ai entendu comme si vous parliez déjà d'un budget. Nous n'avons pas encore de budget. Et je dois rappeler que le budget est juste préparé, proposé par le gouvernement, mais le budget, c'est un produit de l'autorité budgétaire qu'est le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le projet actuel aurait dû être présenté au plus tard le 15 septembre 2013. Il ne l'a pas été. Je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé comme pratiquement polémique entre le gouvernement et le Parlement. Et donc, le gouvernement a failli à ses obligations en ne sachant pas présenter le projet de budget, le projet de loi de finances, dans les délais utiles pour qu'il soit traité conformément à la loi, parce que...
Mais il faut aussi reconnaître qu'il y avait eu beaucoup d'impératifs. C'est vrai que ce n'est pas le débat de ce soir. Parmi ces impératifs, il y avait l'organisation des concertations nationales qui a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, et qui n'a pas permis au gouvernement de présenter le budget dans le délai.
Les concertations nationales se sont déroulées au mois de septembre. Je vous dis que la loi dit qu'il faut présenter le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre. Donc, quand on ouvre la session de septembre, qui est une session budgétaire, le Parlement doit trouver le budget déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Ça ne l'a pas été. Donc, nous sommes déjà dans un problème. Alors, qu'on dise qu'il est réaliste ou pas, nous ne pouvons pas le savoir. Il faut qu'on ait le temps de l'analyser. Et je vous dis que la loi donne 40 jours à l'Assemblée nationale pour analyser le projet préparé par le gouvernement et 20 jours au Sénat. Mais dans les conditions actuelles où nous n'avons que cette session extraordinaire qui ne peut pas dépasser 30 jours, vous comprenez déjà que le gouvernement nous a mis dans des conditions telles que nous ne pouvons pas faire un travail sérieux sur la loi de finances. Voilà. Nous sommes en difficulté.
Et revenons à ces projets de budget, dont le montant est estimé à 8 milliards de dollars américains. Le député Francis Kalombo reconnaît que ce n'est pas suffisant et qu'il y a possibilité de faire mieux.
Je suis d'accord avec lui. Je veux même aller plus loin. Je veux donner certains indices récemment livrés par des membres du gouvernement. Je parle plus particulièrement du ministre Kinkié. Il nous a dit que le trafic d'appels entrants sur lequel l'État a des droits, sur la RDC, il est évalué à 120 millions de minutes par mois. Mais il n'y a que 20 millions de minutes qui sont déclarées à l'État. Vous comprenez déjà l'ampleur de la fraude. Donc, vous voyez que c'est le 1/6 qui est déclaré. Et donc, si on nous présente un budget de 8 milliards maintenant, si nous nous référons à cet indice-là, vous comprenez que nous pouvons facilement le multiplier par 6, et c'est donc faisable. Et donc, je confirme ce que Francis Kalombo a dit, que le budget, il est encore dérisoire par rapport aux possibilités de la République.
Oui, vous êtes l'autorité budgétaire. Le budget que le Premier ministre vient de présenter n'est pas très différent, n'est-ce pas, des budgets précédents. Mais c'est fait que chaque fois qu'un projet de budget est présenté à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, il est critiqué. L'opposition dit qu'il n'est pas réaliste. Mais après, il est envoyé, n'est-ce pas, dans la commission ECOFIN pour être étoffé. Mais lorsqu'il y revient, on se rend compte que, rien ne change. N'est-ce pas que vous avez aussi une part des responsabilités, vous, autorité budgétaire?
Absolument, vous avez raison. Et si vous avez suivi les débats hier à l'Assemblée nationale, vous devez avoir retenu que mon groupe parlementaire, le groupe parlementaire UNC et Alliés, a arrêté une position après avoir fait remarquer que finalement la question du budget s'est devenue une plaisanterie, une question de complaisance, parce que nous votons des budgets, mais ce qui s'applique sur terrain, c'est autre chose. Là, nous venons de voter une loi portant reddition des comptes, après que cela ne se soit fait depuis plusieurs années. Et c'est la loi portant reddition des comptes de l'année 2012. Mais nous avons remarqué, et la Cour des comptes a fait remarquer au gouvernement que sa gestion est mauvaise. Le gouvernement a laissé des dépenses qui étaient prévues au budget, et pas n'importe lesquelles, des dépenses contraignantes, des dépenses sociales. Vous imaginez, il y a des enseignants qui ne sont pas payés, et il y a des étudiants, la bourse d'études n'est pas payée, mais par contre, le gouvernement a intérêt, il a payé des projets qui n'étaient pas prévus au budget. Or, le budget, c'est une loi d'autorisation. Donc, le gouvernement se permet de faire ce qui ne lui est pas permis par l'autorité budgétaire. Et vous voulez que nous puissions croire au budget. C'est pour ça que nous, hier, on a pris une position en disant que nous voulons, pour une fois, considérer le projet tel que le gouvernement nous l'a apporté. Et nous voulons le voter tel quel. Et puis après, nous allons surveiller l'exécution. Comme c'est son propre projet qu'on n'aura pas modifié, nous pensons que cette fois-ci, il va l'exécuter. Et s'il ne l'exécute pas, nous nous disons, nous ne participerons plus à aucun débat sur les lois de finances.
Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Vous êtes aussi analyste économique. Votre analyse par rapport à ces projets de budget 2014?
Mon analyse est toute simple. Nous avons un budget qui ne correspond pas à la taille justement de nos ambitions. Donc ce budget est tout à fait contraire à l'ambition proclamée de la révolution de la modernité ou de l'atteinte de l'émergence. On ne peut pas atteindre ces deux objectifs avec un budget aussi dérisoire. Mais il y a une grande question d'abord de fond qui doit être posée. C'est la question du PIB national. Je pense que si nous évaluons bien notre PIB, si nous avons une meilleure quantification du PIB, on pourra faire un débat sérieux sur la possibilité qu'il y a justement de mobiliser de recettes. Mais même sans faire ce débat, on sait qu'il y a encore d'immenses possibilités qui s'offrent à notre pays en termes de mobilisation de recettes. Il y a encore beaucoup trop de corruption, il y a encore beaucoup trop de détournements, il y a encore beaucoup trop de dépenses qui n'en valent pas la peine. Et donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir aussi bien sur le plan de la dépense que sur le plan de la mobilisation. Quand je vois le budget lui-même, j'aimerais beaucoup m'apesantir par sur le 8 milliards. Hein. J'aimerais penser, il faut que le Congolais sache qu'ils ont à peu près 5 milliards en termes de prévision de mobilisation de recettes.
Hein. Interne.
Interne. Donc c'est 5 milliards à peu près. Et donc quand on fait un petit calcul avec 60 millions d'habitants, divisé par, vous prenez le budget, vous divisez par 60 millions d'habitants de Congolais, vous avez à peu près 80 dollars par Congolais l'an. C'est un niveau de pauvreté terrible. Quand vous faites 80 dollars divisé par 12 mois, ça veut dire que chaque Congolais vit à peu près avec 6 dollars le mois. Et donc, continuez encore, vous voyez que non, nous sommes un pays d'immense pauvreté. Et donc, c'est toute la problématique de la réduction du train de vie de l'État. C'est toute la problématique des surpassements de crédits par certaines institutions, notamment la présidente de la République et d'autres institutions. Donc, nous sommes là et je suis resté sur ma soif hier en suivant le débat. Le débat, qualitativement, n'était pas à la hauteur. Beaucoup de députés ont raté le coche. L'honorable Bamporiki et d'autres honorables encore ont honoré justement l'Assemblée nationale par un débat de qualité. Donc il faudrait que nous essayions de penser de manière stratégique quelle est notre capacité de mobilisation à son maximum vu l'état de notre économie et penser justement sur la pertinence de la dépense. Que chaque franc ou chaque dollar, chaque franc de Congolais, il doit être investi dans quel secteur, pour quel objectif. Donc justement, une gestion basée sur le résultat. Et donc moi je pense que pour l'instant, le projet de débat de budget qui a été présenté reflète justement un problème de gouvernance et de bonne gouvernance. Parce que c'est vrai qu'on nous dit justement, ce sont les possibilités actuelles du pays. Mais la charge du gouvernement, c'est justement, c'est de créer des richesses. De favoriser, de créer un climat.
Vous pensez que ces richesses ne sont pas créées?
D'abord, les peu de
richesses. On parle du taux de croissance, c'est de plus de 8%.
Justement, le problème.
Ces richesses sont créées donc.
Il y a une création de richesses, mais cette création de richesses n'est pas encore suffisante. Il faudrait que nous atteignions un taux de croissance de deux chiffres. Mais avant même d'atteindre le taux de croissance de deux chiffres, contentons-nous d'abord celui que nous avons ici. Est-ce qu'on a pu retirer cette création de richesses suffisamment les droits dus à l'État? La réponse a été donnée avec les télécoms, non. Mais c'est vrai que Kinkei, justement, a crié à la fraude. Mais l'État ne doit pas crier à la fraude, il doit sanctionner. Mettez-vous dans la peau de l'État américain s'il y avait un tel scandale de fraude. Voilà. Et j'ai vu de débats, parfois, on veut ramener la situation de la RD Congo avec la France et les États-Unis. Et souvent, les gens reviennent et disent que les États-Unis sont endettés. Mais ils sont en train de comparer la lumière et les ténèbres. Donc ce sont des questions que c'est les députés, et notamment Francis Katombe, ne les maîtrisent pas suffisamment. Parce que les États-Unis, quand ils disent que la Chine finance la dette américaine, ce n'est pas que les Américains vont demander aux Chinois prêtez-nous de l'argent. Les États-Unis sont tellement crédibles qu'ils émettent justement ce qu'on appelle des obligations d'État. Et les gens achètent leur dette parce qu'ils savent que c'est un État crédible qui va honorer sa parole, qui va rembourser.
Pourquoi vous dites qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment?
Non, parce que les gens disent qu'ici, dans notre cas, on ne doit pas vivre sur basse caisse. On doit aussi essayer de creuser un peu le déficit, mais enfin. Et donc, il faut voir justement
c'est leur point de vue. Hein.
Non, c'est un point de vue qui est justement faux. Et justement, il faut justement que les gens puissent un peu se documenter sur ces questions justement des finances publiques. Et donc, nous avons fait des efforts importants avec le gouvernement Tata, justement, avec la cotation par les agences de notation. Ce sont ces agences là-bas qui vous disent que si vous mettez un dollar dans un pays comme la RDC, vous avez X chances de gagner deux ou de perdre tout l'argent. Il y a un risque qu'eux, ils évaluent de manière objective. Et donc, tout ce qu'il y a comme bruit à gauche, parce que les gens veulent nous faire croire que nous sommes dans un état normal, tout ce qu'il y a comme bruit à gauche, Bakatakatanga, guerre à l'Est et tout ça, contribue justement à ne pas favoriser d'attirer suffisamment d'investissements. Donc c'est une question globale qui se lie. Et donc, les députés doivent réfléchir à comment améliorer le climat d'affaires, à comment faire en sorte justement que les richesses d'abord créées et celles qui seront créées plus tard puissent rapporter leurs droits à l'État.
Donc, comment vous expliquez le fait que le texte qui est encore un projet de loi, lorsqu'il est, n'est-ce pas, envoyé à la commission ECOFIN, en dépit du fait que cette commission essaie de travailler sur ce texte-là, mais il ne change pas assez. Pourquoi les députés ont du mal, n'est-ce pas, à étoffer ces budgets, à adopter au pays un budget consistant?
Non, parfait. Le budget, c'est vrai. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale, principalement. Mais c'est d'abord un acte, c'est d'abord un programme chiffré du gouvernement. C'est le programme économique du gouvernement, mais en termes de chiffres. Donc, la première responsabilité d'un budget, parce que c'est le gouvernement qui a toute la vision globale du pays, qui contrôle, qui gère les entreprises publiques, qui gère tous les pans de l'économie, qui peut vous dire que là, voilà, c'est une stratégie en fait. Donc, les amendements du Parlement ne peuvent pas substantiellement, modifier un budget. Et parce que si vous donnez le même texte de budget, si vous dites à chaque député élaborer un budget, chacun va élaborer son budget, on ne se mettra jamais d'accord. Et donc d'abord, le budget est un acte politique, il y a une majorité au pouvoir, il y a une majorité au gouvernement qui soutient un programme politique qui le chiffre. Et donc c'est illusoire de penser qu'il peut y avoir des modifications substantielles, ils vont grappiller par-ci, ils vont grappiller par-là, mais de manière globale, dans sa structuration, le budget restera ainsi.
Honorable Francis Kalombo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Amos Mishima de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Pourquoi nos députés votent des budgets qui n'ont pas d'impact positif sur le vécu quotidien du peuple congolais? Tous nos chrétiens, on vote le budget national pour répondre aux problèmes socio-économiques de la population. Mais en RDC, c'est le contraire. Chaque année, le grand du budget est détourné par nos dirigeants qui achètent de belles villas en Europe, voire des voitures, au détriment de la population qui vit toujours dans la misère. Et cela en dépit des bons discours de ces derniers, laissant entendre que le Congo va mieux il y a 15 ans.
Honorable Francis Kalombo, votre réaction?
Je voulais d'abord répondre au journaliste qui nous fait un procès d'intention Mais je pense que ce que je peux dire par rapport à l'auditeur, je le comprends parfaitement, c'est un discours qui est répandu, non seulement répandu, mais lorsqu'on voit le train de vie de certains membres du gouvernement ou des gens qui sont des mandataires, c'est tout à
même
fait
même des députés et sénateurs.
Qu'on puisse penser ainsi. Mais en ce qui nous concerne, nous les députés, je pense que quand vous regardez les députés qui n'ont pas pu se faire réélire en 2011, vous verrez dans quel état ils sont en train de vivre. Nous sommes des pauvres par rapport à comparatif. Que les députés ont deux fonctions en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si tous les députés sont comme ça, mais je pense que nous tous, nous faisons la même chose. Nous sommes des assistantes sociales. Chaque jour, nous dépensons beaucoup d'argent, des ordonnances, des faits qu'il faut enterrer et beaucoup de dépenses. Donc, je pense que nous ne gagnons pas assez. Ça dépend ce que font les uns et les autres, mais comparer ce que gagne un député pour dire que nous sommes là pour appauvrir la population, je ne pense pas. Notre rôle n'est pas celui-là, au contraire. Nous devons tout faire pour soutenir la population, pour que la population avance. Mais le budget, on peut mettre 1000 chiffres, on peut mettre le montant que les gens veulent. C'est la capacité que nous avons en République démocratique du Congo de mobiliser. C'est ce que nous sommes capables de mobiliser et nous devons dépenser ce que nous sommes capables de mobiliser. Et lorsque j'ai parlé des États-Unis ou de la France, effectivement, et ils vivent au-delà de ceux qui sont capables de mobiliser, tel que il me dit, je ne sais pas que je ne maîtrise pas, c'est la réalité. Ils ont des déficits budgétaires et nous pouvons aussi créer des déficits budgétaires en République démocratique du Congo en espérant vivre mieux, mais en ayant des déficits au niveau de notre budget. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes obligés de faire avec ce que nous avons. C'est déjà une bonne chose. Et je vois la France, les débats en Europe aujourd'hui, c'est de réduire les déficits qu'a la France par rapport à son budget. Et nous, ce n'est pas le cas. Donc je pense pas que nous vivons mieux en République démocratique du Congo que ces autres pays. Ils vivent mieux que nous, avec des dettes. Mais nous devons faire un effort pour mieux vivre, pour le bien-être de la population, devenir crédible. Et vous avez vu les efforts que fait le gouvernement avec les triple B aujourd'hui. Et nous voulons faire pour qu'on puisse nous donner le crédit, qu'on puisse nous permettre de mieux vivre ou de faire vivre mieux la population. C'est un travail de longue haleine. On n'a pas construit Paris ni les États-Unis en une journée. Et nous sommes en train petit à petit d'avancer pour que le Congo devienne un bon pays, demain un pays prospère. C'est un travail que nous sommes appelés à faire les uns et les autres, et nous demandons la contribution aussi de la population. Maintenant, les gens qui construisent, les gens qui volent l'État, vivent au milieu de la population doit commencer à dénoncer. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui commence à travailler à l'OFIDA, du jour au lendemain, on le voit s'enrichir, mais les gens applaudissent et croisent les bras. Moi, je pense qu'il faut, il y a beaucoup d'informels, comme je l'ai souligné, il y a beaucoup de coulage, comme on n'arrête pas de le dire. Il faut qu'au Congo, nous puissions devenir des responsables et que les Congolais se mettent aussi au travail.
Honorable.
C'est vrai, il y a beaucoup de coulage. Ce que je regrette, c'est que lorsque le ministre annonce qu'il y a ces manques, il faut que le ministre nous dise qui sont ceux-là, qui sont en train de voler et qu'on le mette aux arrêts. Il ne suffit pas de faire des faits d'annonce, mais il faut aussi que cela puisse être palpable, qu'on dénonce c'est tel ou tel et qu'on fasse un effort pour qu'on puisse récupérer cet argent qui passe dans les poches des individus.
Honorable, ce projet de budget 2014, comme celui de l'année dernière, est composé des recettes des douanes et assises évaluées à environ 27,5%, des recettes fiscales 22,3% et non fiscales 8,1%. Vous avez parlé des coulages des recettes publiques, vous avez dit qu'il y a des efforts que nous devons fournir. Et parmi ces efforts, ne faudrait-il pas travailler en amont, n'est-ce pas, et essayer de réformer la douane et la fiscalité afin de maximiser leurs recettes.
Merci beaucoup. Justement, c'est ce que nous devons faire. C'est que nous sommes vraiment et dans l'obligation de pouvoir faire ça. Je crois que la fiscalité, d'ailleurs, très mal, qui pousse à beaucoup de contribuables de pouvoir tricher. Il y a trop d'impôts qui tuent l'impôt. Et vous avez, je prends l'exemple, bon, ça je peux, même au niveau de la ville de province de Kinshasa, avec même l'impôt foncier, où la ville est incapable aujourd'hui de mobiliser la totalité par rapport à la population. Il y a un travail à faire, il y a une prise de conscience que nous devons avoir. Plus l'État aura beaucoup de moyens, plus on va bien payer les gens. Il faut qu'il y ait cette campagne, mais il faut aussi que nous puissions voir comment nous pouvons réduire. Il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes et il y a trop de tricheries. La fiscalité avec 22%, c'est rien par rapport à ce que nous voyons, ce que nous sommes capables de produire en République démocratique du Congo. Donc, il faut certes des réformes de ce côté-là. Je ne veux même pas aller au niveau de la douane. Ou si vous vous mettez le long du fleuve ici, vous verrez combien de gens trichent, combien de gens font passer des histoires pratiquement tous les jours. Et si on arrivait à canaliser tout ça, je pense qu'on peut avoir beaucoup de recettes en République démocratique du Congo. On l'a vu au Katanga, où on a été obligé de creuser des trous pour ne pas pour empêcher les gens de pouvoir passer par des chemins détournés, afin de pouvoir ramener des marchandises en République démocratique du Congo. Il y a des tricheries, il y a des coulages, il y a beaucoup de choses, mais ensemble, ce n'est pas une affaire d'un individu, ni une affaire simplement du gouvernement, mais je pense que tout citoyen congolais qui passe par ce genre de choses peut dénoncer et faire en sorte que ça puisse se canaliser. Congolais pense d'abord soi, et c'est ce qui nous rend un peu dur, c'est ce qui rend les choses un peu beaucoup plus compliquées. Mais nous devons travailler, le gouvernement doit travailler, et la population doit aussi aider les gouvernements à démasquer ce genre de comportement pour que la fiscalité, qui, moi j'ai dit, on prend l'exemple de la TVA, vous avez beaucoup d'entreprises qui se plaignent, qui ne sont pas remboursées, qui payent la TVA, mais qui ne sont pas remboursées. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent et ça leur pousse à tricher.
Merci honorable. Honorable Jean-Marie Bamporiki, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kananga au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga au Kasaï occidental. Le budget tel que voté hier par l'Assemblée nationale est insignifiant pour les sociaux congolais, mais il profite plus aux politiques congolais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que depuis 3 ans, le budget est resté presque le même, il n'augmente pas, malgré les efforts fournis ça et là.
Voilà, ça c'est une interpellation à votre égard, hein, vous, autorité budgétaire.
Merci, merci beaucoup. Je dirais à l'auditeur que d'abord que le budget n'est pas encore voté, contrairement à ce qu'il déclare, et à sa préoccupation de savoir pourquoi le budget ne change pas depuis 3 ans, d'après ce qu'il a dit. Moi, je dirais, si au moins on pouvait le réaliser au niveau où il est voté, parce que nous sommes en train de parler de 8 milliards, l'exercice que nous venons de terminer, et on parlait de 7 milliards, mais il faut qu'on ait le temps de voir combien on a réalisé sur ces 7 milliards. Nous avons un budget bien clos, c'est celui de 2012. Mais il n'a été réalisé qu'à 55%, je pense, si ma mémoire... 64%. Vous voyez. Alors, donc, il faut que nous commencions d'abord par être sérieux, parce que le budget répond à certains principes qui sont universels. Lorsqu'on inscrit un montant dans un budget au titre de recettes, il faut qu'on le réalise absolument. C'est un minimum. Donc, le souhait est d'aller au-delà. Et si on...
Il ne peut pas y avoir des aléas, n'est-ce pas, qui font que ce qui a été prévu n'a pas été réalisé.
Il faut expliquer. On peut encore comprendre en ce qui concerne les recettes attendues de l'extérieur qu'elles ne se réalisent pas. Il peut y avoir des explications. Mais pour les recettes internes, on ne peut pas comprendre que les projections que vous avez faites vous-même, vous ne soyez pas en mesure de les réaliser. C'est pas admissible. Par ailleurs, quand on voit les indices d'enrichissement sans cause dans le chef de ceux-là qui doivent effectivement mobiliser les recettes, on se dit il y a un problème. Donc, il faut qu'on commence par être sérieux d'abord. Si on a arrêté un budget, qu'on le réalise et qu'on l'exécute. C'est ça aussi le problème. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un budget comme document, et puis quand il faut gérer, de faire autre chose, de dépenser sans se référer à quoi que ce soit, de dépenser pour des choses qui n'étaient pas prévues au budget et d'ignorer celles qui étaient prévues, et surtout des histoires sociales. Comme vous imaginez, il y a des... Je ne sais pas, j'ai le nombre d'enseignants, 200 000 enseignants qui sont non payés. Vous imaginez un peu cela ? Constaté dans le budget 2012, on a prévu des bourses des étudiants, on n'a payé aucun rond. Vous pouvez vous imaginer ça ? Et pourtant, dans le même budget, on a fait des dépenses qui n'étaient pas prévues au budget. Donc, nous devons commencer par...
Et quelle
a été
la réaction de l'Assemblée nationale par rapport à ces faits ?
C'est ce que nous devons déplorer. L'Assemblée est là la configuration que vous connaissez. Et vous pouvez vous-même comprendre les conséquences de
quelle
cela.
Quelle est cette configuration-là? Parce qu'il y a la majorité d'un côté et de l'autre.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. S'il faut sanctionner, il faut qu'on prenne une décision majoritaire. Et la majorité, elle est du côté que vous connaissez.
Et honorable Bampoïti, comment vous expliquez le fait que les recettes de pétroliers, n'est-ce pas, ne constituent que 5,4% des recettes totales de ce projet du budget 2014?
Mais le problème, c'est...
Il y a aussi le secteur minier, hein, qui, dont la part est vraiment minime dans les budgets de l'État.
Mais justement... D'abord, je ne sais pas de quel pétrolier vous parlez, parce qu'il y a des pétroliers producteurs et des pétroliers distributeurs.
Si producteurs.
Les producteurs, voilà. Ils sont à combien qui payent? C'est juste, je crois, ce qui opère dans le bassin côtier, à Moanda. Oui, parce que ceux qui sont en Ituri, je ne sais même pas, ils sont sous quel régime, les contrats qu'ils ont signés avec la République. Je ne sais pas s'ils ont été publiés quelque part. Donc, est-ce qu'ils sont exonérés comme le sont les compagnies minières et jusqu'à présent, la plupart? Et donc, c'est à la côte, dans les bassins côtiers. Nous n'avons qu'une production de combien de barils? 25 000 barils jour. Mais c'est rien du tout ça. Nous ne sommes pas un pays producteur. Pour être producteur, il faut avoir au moins 100 000 barils jour. Donc, c'est pas de là qu'on peut attendre vraiment des recettes exceptionnelles. Il fallait que on puisse activer tout notre potentiel pétrolier, notamment dans l'Ituri, y mettre du sérieux, et là signer des bons contrats, et on peut espérer avoir des recettes très importantes.
Dans l'Ituri, dans les Tanganyika, les lacs
voilà,
Tanganyika,
partout là-bas, dans la cuvette centrale, nous avons du pétrole partout.
Voilà. Israël Moutala, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Butembo, au Nord Kivu.
Jean-Baptiste Chouinia Aimungromo, depuis Butembo, au Nord Kivu, fait projet de budget présenté par le gouvernement congolais est réaliste, mais insignifiant au regard des potentialités naturelles qui regorgent la RDC, ainsi que les attentes de la population congolaise. Faudra-t-il encore attendre 25 ans pour atteindre le budget actuel de l'Angola, vu que le gouvernement congolais a l'habitude de revoir chaque à la hausse le budget d'un milliard seulement? Le gouvernement congolais doit apprendre à tirer profit des potentialités qui regorgent le pays et peut-être atteindre un jour 85 milliards pour que la vie de la population congolaise soit décente.
Votre réaction, Israël Moutala?
Ma réaction, c'est simple. Quelle est notre vision pour le Congolais? Voulons-nous que le Congolais vive dans la dignité? Voulons-nous que le Congolais mange à sa faim, soigne ses enfants, les éduque? Quelle est notre vision pour le Congolais pour qu'il vive dans la dignité? C'est ça notre vision. Et donc, on doit définir justement la vision d'un Congolais moderne, d'un Congolais épanoui. Il lui faut combien par an pour vivre? On met le seuil, nous sommes 60 millions d'habitants. Nous serons 75 millions dans quelques années, nous serons même à 100 millions en 2030. Donc si vous dites que le Congolais doit vivre avec 50 000 dollars l'an, vous faites les calculs. Il faudrait un budget au-delà de 100 milliards. Alors, si vous voulez un budget au-delà de 100 milliards, vous y arrivez comment? Comment vous créez la richesse? C'est ça tout le problème. Donc, le budget, il augmente pas suffisamment, c'est vrai. Mais parce que la richesse, elle ne tombe pas du ciel. Elle doit être le fruit d'un investissement. Au regarder, justement, même le volet investissement de notre budget national, il n'est pas à la hauteur de nos ambitions.
C'est beaucoup plus un budget de consommation.
Non, c'est juste un budget, même la consommation. Et quelle consommation? Parce que même pour la consommation, je vois les rémunérations du personnel politique. Si vraiment ces gens aimaient ce pays, franchement, c'est indécent. Ça veut dire que dans un pays où le dernier fonctionnaire a plus ou moins 70 000 francs, je crois qu'il y aura une augmentation de 10 000 francs dans le projet qui est présenté. Donc aucun dirigeant, aucun, ne pouvait se avoir plus de 3 000 ou 5 000 dollars. Ils vont vous dire, oh non, on commence par le haut pour tirer les autres. Non, ça veut dire que les Congolais sont choqués par le fait que l'effort n'est pas équitablement reparti. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir politique ont beaucoup de prérogatives, alors ils ne s'occupent pas justement du petit peuple. Par exemple, un exemple. Les ministres et les autres, l'argent qu'ils ont va la plupart du temps, comme on l'a dit ici, dans des dépenses somptuaires. Mais si vous allez par exemple chez le le fonctionnaire, quand vous lui donnez, il a 70 000, il passe à 150 000, c'est pour qu'il essaye de manger peut-être deux fois par jour. Donc, il va stimuler encore la production interne et donc il y aura un cercle vertueux. Mais les autres, c'est voitures luxueuses, parfums luxueux, et bref, et tout ce qui est somptuaire. Et donc il faut vraiment faire un effort justement pour prendre la catégorie, les masses laborieuses, le faire accéder à une certaine capacité de pouvoir d'achat, et ça va attirer toute l'économie.
Oui, au sujet de la répartition par rapport à ces budgets, il y a l'amélioration du cadre des vies et des conditions sociales de la population où on a affecté seulement 30% par rapport à ces budgets 2014.
Mais justement, c'est ça aussi le problème du budget. Justement. Il faut justement qu'on trouve un axe stratégique. On a peu de moyens. Où est-ce qu'on le met? On le met où? Pour que justement, on puisse récolter plus de moyens l'année prochaine, ou deux ans, ou trois ans, ou dans cinq ans. C'est ça le grand débat. Là, maintenant, nous allons tomber dans le saupoudrage. On va mettre 10 ici, 20 ici, pour une vision globale, et c'est pas intéressant. Mais j'ai trouvé quand même l'idée du député Mbouyou quand même assez intéressante. C'est une idée que je partage aussi, que il faudrait au moins que dans chaque territoire qu'il y ait, je sais pas, une somme pour un projet spécifique école ou hôpital. Comme ça, ça va donner un peu aussi une certaine visibilité au budget de l'État.
Merci. Ça sera la dernière question. Que faut-il pour doter la RDC d'un budget consistant? Le Premier ministre a évoqué notamment la révision du code minier et la mise en place d'une nouvelle politique de fixation des prix des produits pétroliers et selon lui, dont l'impact envisagé est de près de 108 milliards de francs congolais.
On ne va pas réinventer la roue. On a besoin d'abord de quoi? Des institutions politiques stables. Faites-nous justement de la bonne politique, on fera de la bonne économie. Respect démocratique, calendrier, cycles électoraux. On n'a pas besoin de guerre. Affaire Pasteur Mukungubila, Bakata Katanga, guerre à l'Est. Donc, il y a un problème. Stabilité du cadre macroéconomique, indépendance de la justice, liberté de la presse, amélioration du climat des affaires. Et après, justement, vous élaborez un plan stratégique de développement pour voir comment capitaliser les avantages naturels que nous avons. Nous avons des ressources naturelles importantes. Comment est-ce qu'on les capitalise? Donc, bref, c'est tout un débat. Et c'est là que la réflexion doit être axée.
Merci. Je considère ça comme votre conclusion. Honorable Francis Kalombo, que faut-il pour doter la RDC d'un budget consistant? Vous avez parlé de la lutte contre le coulage des recettes publiques, la lutte contre la corruption. Et en plus de cela, ne faut-il pas repenser le fonctionnement de tous les systèmes?
Écoutez, je pense que penser le fonctionnement des systèmes, c'est aussi une très bonne chose, mais tout à l'heure, j'ai vu mon collègue fuir ses responsabilités lorsqu'il pense que le contrôle parlementaire n'est qu'une affaire de la majorité. C'est faux. Je pense que vous suivez vous-même des débats et l'opposition a aussi doit avoir le courage, et l'opposition arrive aussi à interpeller des ministres ou à faire des enquêtes s'ils pensent que telle ou telle autre chose ne marche pas. À l'Assemblée nationale, c'est la démocratie. C'est le respect de nos règlements et je pense que nous avançons très bien.
Merci.
Et que ce soit l'opposition ou la majorité, et même au niveau des commissions, nous travaillons ensemble. Et de deux, je suis fier et de constater, et d'ailleurs je salue l'UNC qui a accepté et qui l'a déclaré, qui va, tel que mon collègue vient de l'annoncer, qui va adopter ce budget, qui va voter ce budget. C'est déjà un grand progrès, c'est déjà
Merci.
Une très bonne chose.
Merci, honorable.
Donc voilà.
Honorable Bamproïki, votre conclusion?
Mon collègue Francis, c'est que l'UNC avait fait une motion qui avait fait sensation, mais vous savez vous-même comment la majorité s'est organisée pour qu'elle ne soit même pas lue, aux antennes de l'Assemblée nationale.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.